Bien, écoutez, la dernière fois, ça fait déjà longtemps, et on avait étudié la série des sursis, de ce que je vous ai appelé les sursis que la civilisation de Caïn avait reçus. Et je vous avais énuméré 7 étapes des sursis. Et si je me souviens bien, donc, d'après ce que Youssef vient de me dire, c'est que nous sommes arrivés au dernier des sursis, qui était les 7 jours supplémentaires avant le déclenchement du déluge, et c'était relié à l'honneur du tzaddik Kemet Ushelach. Vous vous rappelez de ça? Bien. Alors, en fait, c'est moi qui, en m'appuyant sur le Midrash, dit que Kemet Ushelach, que on traduit en français Mathusalem, vous vous rappelez de ça? Et c'est vraiment deux profils radicalement différents en hébreu et en français. En hébreu, c'est le type même du tzaddik par excellence, mais la Torah, le texte du Mikra, le texte lui-même, n'indique pas qu'il est tzaddik. C'est le Midrash qui réintègre cela. En fait, la première fois que le terme de tzaddik va être employé, c'est à propos de Noir. Et nous allons prendre aujourd'hui la première étude sur la définition qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik par rapport à Noir et les problèmes. Je vous en énumérerai quelques-uns, parce qu'on aura le temps de les étudier tous, mais après vos questions, on verra. Les problèmes que pose le fait que nous étudions ces questions, la définition du juste, et il faudra réfléchir sur la signification de ce terme en hébreu, mais provisoirement, je dirais donc juste en français, c'est ainsi qu'on traduit habituellement, mais il faudra préciser le sens hébreu du mot tzaddik par rapport à la traduction en français. Nous étudions donc ces sujets du point de vue d'une définition du tzaddik d'Israël à partir d'Abraham et qui se définit par rapport à une Torah qui a été révélée à Israël en particulier. Donc la première question qui va se poser, c'est n'y a-t-il pas une définition de l'identité du tzaddik à l'échelle universelle? Il y a un premier problème important. C'est-à-dire, s'il y a un principe de sélection a priori, si on est situé dans l'identité d'Israël, alors on peut être relié à une véritable loi, à une loi de vérité, par conséquent, la notion de tzaddik est cohérente, mais cela impliquerait que cela met en dehors de cette définition du tzaddik pratiquement tout l'universel humain, sauf Israël. Je peux reprendre cette question sous d'autres formes, mais est-ce que la question est claire? Il y aurait apparemment une sorte d'injustice, de fatalité a priori. Celui qui ne serait pas né ou qui n'aurait pas occasion d'intégrer Israël, il y a le problème des guérims qui va se poser bien évidemment, enfin je ne l'aborde pas tout de suite, n'aurait aucune chance d'être tzaddik si la première condition préalable de l'identité du tzaddik, c'est d'être tzaddik par rapport à la Torah. Est-ce que la question est claire?
Une partie de la Torah qui est
pour le Mota Olam. Pas une partie de la Torah. Il y a une Torah pour le Mota Olam. Mais c'est la question d'Afka des Bnei Noir que nous retrouvons. Mais je veux d'abord poser la question préjudicielle, comme on dit, au préalable, meikara, a priori. C'est-à-dire, je prends les choses un peu, si vous voulez, a posteriori, d'ailleurs. C'est-à-dire, étant donné que nous sommes habitués à rencontrer ces problèmes du dedans de l'éducation que la Torah donne à Israël, et avec une sorte de postulat qu'il y a, une catégorisation sur laquelle il faudra réfléchir. Il y a d'un côté Israël, de l'autre côté les Umot Haolam, les nations du monde, par rapport aux critères de Torah. Il faut toujours retenir cela. Il y a le Midrash Halacha, et pas seulement le Midrash Haggadah, le met bien en évidence. Il y a un principe de sélectivité, je ne veux pas dire élection. Alors, je veux une petite parenthèse là. En français, on parlait du peuple d'Israël par rapport à ces problèmes, on dit le peuple élu. Certainement, dans l'ancien français, ce mot avait le sens exact qu'il devait avoir. C'est pas élu, c'est choisi. Hachem bahar ban. Il y a effectivement cette dimension de l'élection. Le bahour, la bahoura, dans le sens étymologique, c'est-à-dire c'est celui qui a été, celle qui a été choisie parmi tous les autres et toutes les autres. Et en ce sens-là, il y a une dimension de élection. Mais en fait, c'est clair, hein, behir. Mais en fait, l'emploi qu'on donne de ce terme implique que ce serait une sorte d'élection gratuite a priori et qui n'aurait pas de raison, de motivation. Un peu la loterie de l'élection. Enfin, nous vivons en système démocratique, vous savez très bien que quelles que soient les cohérences des motivations d'un vote, je crois que le terme qu'on dit en Suisse est plus exact, une votation, en fait, eh bien, il y a un arbitraire de la loi des grands nombres, des petits nombres. C'est bien clair. Et donc, il y aurait dans cette notion d'élection une notion d'arbitraire que je mets en évidence. Et très souvent, les juifs eux-mêmes se laissent prendre à ce piège que les goïms projettent sur nous avec une espèce de caractère revendicatif et accusateur. Vous comprenez ce que je dis ? Et inévitablement, nous rencontrerons cet aspect du problème. Mais il faut d'abord l'aborder de façon beaucoup plus large, beaucoup plus ample. Il y a une question de principe. Et la première fois que la notion de tzaddik va être employée par la Torah, c'est à propos de Noé. Et c'est pourquoi la question se pose tout de suite. Donc je la reprends dans le sens que je l'ai indiqué. Si nous nous habituons, sans y réfléchir, trop dangereusement peut-être, à cette idée que par définition il ne peut y avoir le tzaddikim que ceux qui ont chance d'être définis ainsi par rapport à la Torah, il y aurait cette espèce d'arbitraire de la naissance en Israël, de la rencontre qui fait qu'il y a un giour et qu'on devient Israël. Vous connaissez la règle, Taval Be'ala, Reouk et Israël et tout d'abord, il n'y a pas de problème. Et même là, c'est pas simple comme question, au point que vous aurez différentes thèses, on l'étudiera, vous les étudiez d'autre part, qui vont essayer de justifier a priori que les Nechamot des Guérim sont en principe des Nechamot d'Israël qui émigraient. Je ne sais pas si on peut dire par hasard, mais enfin, à la suite de toutes les péripéties de l'histoire des Guilgulim, se sont trouvés naître en dehors d'Israël comme peuple, comme communauté. C'est un autre problème. Mais vous voyez, le souci de rattacher même l'identité d'un guerre à une neshama d'Israël, a priori, qui se serait égarée à l'extérieur d'Israël, montre bien qu'on a là une difficulté, qu'on aurait tendance à définir, a priori, comme un tzaddik, que par rapport à la Torah. Nous verrons qu'il y a deux conditions pour que l'identité du juste et la notion de l'identité du juste est un fondement. Il faut deux conditions, la connaissance de la loi et d'autre part la liberté de pouvoir se conduire d'après cette loi. Alors on va admettre comme postulat qu'on a déjà étudié, vous avez déjà étudié d'autre part, qu'effectivement nous savons, nous avons des raisons de savoir que l'homme est créé libre et que l'homme peut avoir accès à la connaissance de la loi de vérité. C'est bien clair. On va le prendre comme postulat. Il y a tous les degrés de liberté, de conditionnement de la liberté, il y a tous les degrés de possibilité d'accès à la connaissance, mais le temps a passé, le monde entier sait qu'il y a une adresse qui s'appelle Israël, où on peut accéder à cette connaissance, quelle que soit la définition que l'on a à cet Israël, c'est clair. Et puis en fin de compte, on admettra donc comme postulat qu'il y a effectivement une liberté de comportement par rapport à cette loi de vérité dont l'accès est possible. Mais encore une fois, c'est un critère restreint, sélectif. Il ne s'agirait que de l'identité du tzaddik par rapport à la Torah. Et donc, il y aurait une espèce d'injustice tellement massive qu'on ne la voit plus dans l'éventualité même de l'hypothèse. L'immense majorité de l'humanité n'aurait aucune chance d'être tzaddik. Et voilà pourtant qu'il s'agit d'une révélation qui nous explique que seuls ceux qui sont des tzaddik, seulement pour ceux qui sont dans le cas d'être des tzadikim, la création du monde a eu un sens. Mais c'est un problème énorme. C'est pourquoi c'est très important de rencontrer le fait que cette notion de tzadik est employée pour la première fois à propos de Noir, dont l'identité n'est pas du tout Israël. L'identité Israël va commencer à émerger à partir d'Abraham. Abraham est un descendant de Noir, mais malgré tout, et quel que soit le mérite de Noir dans cet engendrement d'Abraham, on peut dire déjà de façon directe, si Noah n'avait pas existé, est-ce que les engendrements de l'humanité auraient mené à Abraham? Quoique, vous trouverez des midrashim qui indiqueront que l'identité d'Abraham aurait pu surgir de n'importe quelle lignée humaine. Mais c'est précisément cela, cette n'importe quelle lignée humaine dont la Torah nous rapporte la généalogie, celle de Noah. Et donc il y avait un problème. Bon. Encore une fois, c'est un problème tellement vaste qu'on peut l'aborder par différentes manières, mais j'espère que sa problématique générale est suffisamment claire, c'est-à-dire qu'il nous faut découvrir dès l'anglais deux définitions d'une tzaddik. Une qui puisse être à l'échelle universelle, a priori de la révélation de la Torah, et d'autre part, la définition spécifique à Israël. Tant que nous n'abordons pas une définition de la notion de tzaddik à l'échelle universelle, et sans aucun a priori nous ne sommes pas dans la cohérence de la Torah, qui est la cohérence d'un monothéisme strict, radical, absolu, et cela je répéterai à chaque étude, c'est que c'est un Dieu unique et un qui a créé toutes ses créatures. Et par conséquent, a priori, toutes ces créatures, du moins théoriquement, a priori, doivent avoir accès à cette définition de la créature réussie, c'est-à-dire le tzaddik. Il faut donc que nous rencontrions la définition du tzaddik à l'échelle universelle. Alors je vais vous donner une première série de définitions qui est inspirée de l'enseignement du Pirkei Tzaddik d'Avka. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Et qui indique que le tzaddik se définit, premièrement, dans l'ordre de l'attitude de sa volonté, et deuxièmement, au niveau des actes, par rapport à une norme, par rapport à une loi de valeur, à une table de valeur. Mais c'est la première définition que je vais vous dire là-dedans. Qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik ? C'est celui dont la volonté préfère, en général et systématiquement, préfère choisir le bien tel qu'elle le connaît, au mal tel qu'elle le connaît. Et c'est ce tel qu'elle le connaît qui est important. Parce que, effectivement, le risque d'arbitraire que j'avais signalé au début de l'analyse venait de ceux qui ne sont pas dans le cas de pouvoir connaître le véritable bien ou le véritable mal. Alors ça sera la définition de l'Israël. C'est-à-dire, le tzaddik d'Israël se définit par rapport à la loi morale absolue qui est révélée à Israël à partir d'Abraham. Mais le tzaddik en général, c'est celui qui est défini comme tel par rapport à ses actes, mais dans l'attitude de sa volonté, de la volonté, quelle que soit la manière dont il connaît, dont il a connaissance de l'ordre des valeurs auxquelles il se réfère. Alors là, nous avons donc une définition à l'échelle universelle. Bien entendu, il y a deux clauses, au minimum, de la bonne foi et de la, je veux dire, la clause d'un minimum de bonne foi et de bonne volonté. J'ai fait ça très rapidement, mais il me semble que c'est assez facile, même vous pouvez le reprendre d'autre part. Le problème de la bonne foi. Il faudrait comprendre que et la psychologie moderne, qu'on appelle la psychologie des profondeurs, pas par hasard, je ne vais pas dire psychoanalyse, mais la psychanalyse, mais pas forcément cette technique-là, mais disons la psychologie des profondeurs, et pour la Torah, pour la tradition de la Torah, ce n'est pas une chose moderne. Refait Nefesh, ça existe depuis l'origine. Mais a découvert cela, c'est que personne, je vais dire autrement, plus simplement, on ne se. Voilà, vous voyez, à psychanalyser. Je veux dire que ça n'existe pas quelqu'un qui dit je me suis trompé de bonne foi par rapport au problème moral. C'est très clair. Ça ne trompe personne. Le tzaddik se définit dans le fait qu'il est mesuré à la bonne foi de la connaissance du bien comme il le connaît et de la connaissance du mal comme il le connaît. Il y a les cas de perversion. Alors, les cas de perversion, on n'en parle pas. Les cas de perversion, c'est hors la loi, c'est hors du problème. Il est possible que nous vivions dans un temps de la civilisation où les cas de perversion sont très nombreux et que ça masque le problème, ou ça fausse le problème. Mais pour la loi talmudique, le cas de perversion est hors la loi, il est hors du problème. À la limite, pour indiquer à quel point le Talmud va jusqu'au bout de la question, cholé. Quelqu'un qui est cholé et hors la loi, c'est-à-dire est cholé malade, stable. Alors bon, il s'agit du cholé nefesh, bien sûr, dans le cas de la perversion morale. Et ça, il faut le savoir, pas seulement au niveau pédagogique, au niveau halakhique. Par conséquent, c'est vrai, il y a des cas de perversion où quelqu'un peut croire, ou peut laisser croire, ou feindre de croire, et c'est un problème énorme, okay, que s'il s'est trompé de bonne foi. Mais en fait, on ne se trompe pas de bonne foi, ça ne trompe personne. Et d'ailleurs, je vous conseillerais, si vous voulez approfondir ces problèmes, peut-être de faire un peu de psychologie, et comme science ou comme technique. Et vous verrez qu'il y a tous les simanimes possibles, tous les indices possibles et imaginables qui permettent à un dayan, à un juge, de savoir si celui qui lui parle dit la vérité ou pas. Ne serait-ce que le frémissement des moustaches, quand il a des moustaches. Il décide, quand il a des soucis. Donc, vous voyez ce que vous des soucis. Vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, en fait, pour un dayan, un juge qui connaît son métier, si j'ose dire, eh bien, il peut y avoir des cas limites où il faut beaucoup de patience pour le juge pour arriver à se faire une idée de la sincérité de celui qui parle, C'est pourquoi la Mishnah va prévoir, Heve, Marbe, la Hakor et Ta'edim. Lorsque tu fais une interrogatoire, Heve, Marbe, fais-le abondamment, jusqu'à ce que tu sois sûr. Ou bien, Heve, Metumil, Madim. Ne jamais prendre une décision avant d'arriver à la certitude. Mais dès que la certitude est là, la décision est là. Je veux dire, tout se passe comme si on n'a jamais trompé un véritable Dayan, un véritable juge. Il y a dans les romans policiers que l'on voit ça. Est-ce que c'est clair? Finalement, ça n'existe pas de dire. D'ailleurs, de toute façon, quelqu'un qui se laisse tromper, dit j'ai été trompé, c'est qu'il a une identité de trompeur. Possède de nouveau possède. Bon, je vous dis les choses à la limite, mais ne faites pas de diagnostic chez le voisin, la voisine, le cousin, la cousine. C'est de la typologie, si vous voulez. Mais il est évident que celui qui a une tendance à se laisser tromper, c'est qu'en réalité, il a une tendance à être trompé. Bon, en tout cas, je referme la parenthèse. Et puis ça fait partie de, je ne sais pas si nous en avons parlé dans ce cours, de ce cas de définition minimum de la méchanceté, je rattacherai un problème d'ordre général. Celui qui feint de croire que l'autre avec qui il est en rapport doit être un ange, et alors ça lui donne le droit, le jour où il trouve une défaillance, de l'accuser d'autant plus gravement. C'est le commencement de la méchanceté. Est-ce que c'est clair celui-là? C'est Rishout, de croire que l'autre, parce que c'est l'autre, c'est un ange. Non, l'autre est comme moi, il a Yetzato, il a Yetzara. Ça veut dire pas vraiment qu'il faut se méfier, mais il faut se méfier de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire cette tendance à idéaliser l'autre pour ensuite se donner le droit de le mener devant le tribunal? Et bien, le tribunal n'est pas d'accord. Bon, vous avez compris, ça fait partie de ça. Alors, premièrement, le minimum de bonne foi. Encore une fois, à part des cas de perversion, eh bien, personne ne peut nier qu'il sait qu'il a fait le mal ou le bien, dans la première définition, comme lui le connaît le mal, comme lui le connaît le bien. Vous savez que nous sommes en plein procès d'Oumanou, là, je ne sais pas comment il s'appelle, Tamé, hein, Démanou, enfin c'est démoniaque, mais comme ça. Et alors c'est évident, c'est l'humanité entière fait semblant de croire qu'il y a un problème de procédure. C'est déjà le cas dans le cas du procès Eichmann. Et ça, c'est renversant de voir cette espèce de clownerie de procédure juridique alors qu'il s'agissait de crimes de ce genre, et comme si on va admettre que celui qui en a été l'auteur ne sait pas ce qu'il a fait. Je pense que c'est bien clair. Donc la première définition est claire, c'est qu'il s'agit du bien comme chacun le connaît, ou du mal comme chacun le connaît, à l'échelle de la définition du tzaddik, à l'échelle universelle. Et d'autre part, de la bonne volonté. Alors là, c'est un sujet pour lui-même. Qu'est-ce que c'est que la volonté bonne? L'enseignement de la Torah est qu'une volonté bonne se reconnaît dans le fait qu'elle n'est pas indifférente. Il n'y a pas de adishut tiède. Un vouloir tiède, c'est encore une perversion, c'est une maladie. C'est, je crois que le psychologue appelle ça de l'hypotension spirituelle. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui veut s'en vouloir, c'est ça, vouloir le bien, c'est ça la bonne volonté, ça doit être bepokev, ça veut dire berogev. Il faut être en colère lorsqu'on veut le bien. Sinon, c'est pas qu'on veut, c'est de la vérité. On voudrait bien, mais c'est pas le bien qu'on veut. Et est-ce que c'est clair? Ça veut dire non? D'une part, le minimum de bonne foi, et d'autre part, le minimum de bonne volonté. C'est-à-dire, c'est la force du ratso. En hébreu, le terme de volonté a une force pour lui-même. Ratso peut se rattacher à la racine roots. Et verat, le mitzvah kala ke vachamura. Ratso, c'est vouloir en courant. Sinon, c'est pas vouloir. Accourir. Vous pouvez écrire un poème. Donc, si l'on admet qu'il y a ces deux minimums de la bonne foi et de la bonne volonté, alors quelle que soit l'éducation, quel que soit l'environnement, quelle que soit l'hérédité, eh bien, il y a un minimum de ce que nous appellerons la conscience morale du tzaddik selon Noir. Ensuite, a posteriori, la révélation de la Torah. Ça, c'est pour répondre à ta question. Nous apprenons qu'est-ce que la Torah dit de cette morale minimum universelle. Et de telle sorte qu'on les appelle les chassidés au Monte Aolam. Il ne s'agit pas du niveau de tzaddik, mais du niveau chassid, c'est beaucoup plus élevé. Okay? Il y a d'autres raisons pour lesquelles on les appelle pas tzadikim et chassidim, parce qu'il y a un problème de savoir s'ils sont metsuvim ou s'ils ne sont pas metsuvim. D'après le klal, le cadeau est metsuvé et rosé, mais chez moi, metsuvé et rosé. Seul celui qui est metsuvé, on peut appeler tzadik. Celui qui fait le bien sans être ordonné de cela est appelé chassid, mais pas tzadik. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est une marque. Et alors, on parlera donc, mais après, des sept mitzvot qui concernent les bnei noirs. Mais si nous parlons des chassidés au Motar Olam, c'est en dehors de ce problème. Chassidés au Motar Olam, ce n'est pas forcément des tzadikim des bnei noirs. C'est des chassidés au Motar Olam, des machouaf. Et quoique, refermez, c'est juste dit en parenthèse, mettez-le un peu de côté, on le reprendra plus en détail, c'était trop chelou. Retenez simplement cela, pourquoi on ne les appelle pas tzadikim, mais pourquoi on les appelle chassidim. Vous voyez les impropriétés du langage. Après la Shoah, nous avons cette habitude de langage de parler des justes des nations. Bien des... On va continuer à parler comme ça, puisqu'on parle français. La forêt des justes. Okay. En réalité, ce sont des chassidim, beaucoup plus que des tzadikim. Est-ce que c'est clair? Et alors, on réservera la deuxième grande définition, le tzadik d'Israël, du point de vue vers Amer Kulam Tzadikim, Kol Israël et Shlaïm Kerek Laramba, vers Amer Kulam Tzadikim, qui est être tzadik au niveau d'un être qui est relié, mesuré, confronté à la loi morale absolue qui a été révélée. Alors, ça, c'est un cas particulier. Donc au fond, je pourrais le présenter comme ça, on a inversé le problème. Le cas général, je ne vais pas dire normal, mais le cas général, c'est le tzaddik à l'échelle universelle. Il y a un cas particulier qui est le tzaddik selon Israël. Et non, selon la Torah. Et non pas l'inverse, comme on était peut-être habitué à poser le problème, qu'il n'y a de tzaddikim que Israël et les autres, c'est un mystère. Vous avez compris ce que c'est l'inverse. Et donc, encore une fois, j'espère que l'introduction suffit. Sinon, je vais m'interroger tout de suite avant que je commence l'étude du texte. Encore une fois, c'est important de voir que la première fois que le terme de tzaddik dans le Mikra, dans le texte, est employé par la Torah, c'est à propos de Noar qui n'est pas du tout Israël. Voilà, c'est clair jusque-là? Alors, si vous avez des questions, les voit tout de suite. Sinon, vous allez prendre la fin de la paracha de Bereshit et le début de la paracha de Noar. On va commencer. Allez. Alors, à la fin de la Bracha de Bereshit, c'est le chapitre 6 ou 8, vous rappelez. Chapitre 6, oui. Donc, on pourrait nous indiquer que l'humanité tout entière, et pas seulement l'humanité, mais les êtres vivants, sauf le cas des poissons, c'est un cas particulier dans ce problème, enfin, je vous indique ça comme parenthèse. Puisque le monde a été frappé du déluge, les poissons n'ont pas été noyés, si j'ose dire. Il y a un cas particulier qui est étudié par le Midrash. Mais l'humanité tout entière est condamnée. Vous allez prendre le verset 7 du chapitre 6. Vayomer Hashem, et Dieu dit, Emche et Adam asher barati va'al pene adama. J'effacerai l'homme que j'ai créé. Je l'effacerai de dessus la face de la terre, mais Adam ad behema, depuis l'homme jusqu'à la bête, adremes jusqu'au reptile, vers Adam Hashamaï, jusqu'au lago du ciel. Là, il y a une étude d'exégèse très importante, mais que je vous indique en passant. C'est-à-dire, tant la behema que le remes que l'homme Hashamaï font partie de l'environnement du Adam et sont frappés avec lui, condamnés avec lui. Sauf, vous voyez, le Dagi, c'est le cas particulier, qui n'est hamti qui asiti. Car je regrette de les avoir faits. Ça, c'est une expression difficile. Mais vous savez pourquoi elle est difficile? Parce que je le dis en français. Et Dieu qui regrette, ça c'est du français. Et il y a un projet, ce projet est donné à une évaluation de jugement, et l'évaluation de jugement dévoile que le projet a échoué. Alors, niham. C'est clair, vous voulez qu'on explique? C'est-à-dire, ce que je veux évacuer, c'est la difficulté du terme français. C'est-à-dire que Dieu regrette. Quoique, au-delà des mots, le sens d'un point de vue proprement spirituel, on peut comprendre, bon, mais là, il faut entrer dans une chassidoute intérieure à l'Eva Shamaïm, on peut comprendre cela. Un projet du créateur, il échoue. Et, vous voyez la clause de la liberté de la créature. Alors donc, il y a annulation de ce projet. Mais à un certain niveau seulement. Le Schlar l'indique dans son commentaire, c'est que l'humanité a été frappée par la Midat al-Rahamim, puisque c'est par l'eau qu'elle est frappée. Vous allez me dire que, ce qu'on appelle une histoire juive, il y a que un juif va demander des nouvelles de son âme, le pauvre il est mort. Il y a de quoi la tuberculose dit non, bronchite, ah, c'est pas grave, mais il est mort quand même. Vous avez compris. Et on peut mourir d'un rhume. Alors l'idée que c'est pas grave parce que c'est un rhume, ça change rien à l'événement. Ça veut dire que c'est par la Midat al-Chesed que l'humanité a été frappée par l'eau. Si elle avait été frappée par la Midat al-Din, par la justice absolue, ça aurait été par le feu, le déluge de feu. Mais c'est un déluge gentil, le déluge d'eau. À quel point c'est énorme ce que je dis là, n'est-ce pas ? Parce que ça fait une belle jambe finalement, si c'est par la peste ou le choléra. Mais il y a une raison profonde à ce sujet. En tout cas, le résultat, c'est que l'identité de l'humanité qui avait été créée n'est pas détruite, elle est effacée. C'est-à-dire la forme qu'elle avait prise est effacée. Mais son identité, son essence n'est pas détruite. Si ça avait été par la Midat al-Din, brûlée, alors l'essence aurait été détruite. Vous savez, dans beaucoup d'anciennes traditions, il y a la tradition du déluge d'eau et la tradition du déluge de feu. Vous savez, vous savez. Là, disons, c'était une avant-première. Non, je pense par exemple à. Bon, si vous ne savez pas, il vaut mieux que vous n'ayez pas de cauchemar. Mais en tout cas, dans ce cas, il est parlé du déluge d'eau. Mais il y a l'éventualité d'un déluge de feu. Pourquoi je le dis ? Parce que tout se passe comme si l'humanité a préparé tout ce qu'il faut pour ça. Si un Kadhafi quelconque presse sur un bouton, il risque de se déclencher un déluge de feu sur la Terre. Vous avez compris ce que je veux dire ? Bon, alors oubliez, dormez bien ce soir, mais il est évident que ce ne sont pas des choses surréalistes dont nous parlons. La réalité montre qu'effectivement, c'est envisageable. Alors, je vous parle d'anciennes traditions, de toutes les traditions, le déluge d'eau, mais qu'il peut y avoir un déluge de feu. Et on voit bien que c'est possible. Donc, et ce dont on commence, c'est une espèce d'avant-première. Alors, je vais vous lire un texte qui montre que toute l'humanité, et un texte de la Gemara que j'ai sous les yeux, toute l'humanité, Noir y compris, était dans cette condamnation. Et que par conséquent, si Noir a été sauvé, c'est comme dit le verset 8, Ben Noir Matzachel Ben Ech, c'est qu'il a trouvé grâce. Et vous allez voir tout de suite l'importance du problème. D'un côté, on nous dit qu'il a trouvé grâce, de l'autre côté, on nous dit qu'il était tzaddik. N'y a-t-il pas là une contradiction ? Est-ce que c'est clair ? Ceux d'entre vous qui ont déjà étudié ça, l'un et l'autre, vous vous rappelez certainement que c'est un problème très important. Okay ? Le premier verset que je suis en train de lire, le verset 8 du chapitre 6, dit Ben Noir Matzachel Ben Ech, et Noir a trouvé grâce aux yeux de Dieu, et grâce est gratuite. Chen. Et le verset suivant va nous dire, elle est tout le Noir, début de la parasha de Noir, voici les engendrements de Noir, Ish Tzadik Tamim Haya. C'était un homme juste intègre. Alors voyez comment est le problème. Ensuite je reviendrai sur le fait que Noir lui-même, c'est indiqué par notre texte, je vais mettre en évidence avec le Talmud, Noir lui-même devait être dans cette sanction du déluge. Et que s'il ne l'a pas été, c'est par grâce. Et voilà que l'autre verset nous dit que c'est un tzaddik. Alors là, on est vraiment devant une contradiction absolue. Avant d'aller plus loin, je vous citerai la lecture chrétienne de ce problème, très rapidement, pour l'évacuer, et pour vous montrer à quel point, comme je vous le dis très souvent, c'est une illusion de croire que la théologie chrétienne et la théologie juive peuvent se recouvrir quelque part. Okay, et nous allons en avoir une vérification là. Comme je vous le dis souvent, nous sommes à un stade où l'amitié des personnes est souhaitable, mais la confusion des théologies est néfaste. Je vous ouvrirai une petite parenthèse, j'ai encore ça frais à la mémoire, et c'est vraiment un problème énorme. Je ne sais pas si vous rappelez au début de l'année, quand je vous faisais part un peu de mes inquiétudes, mes soucis, si vous trouvez notre mot. Quand je dis mais, c'est un peu exagéré, nous sommes très nombreux à être inquiets de cela. Cette confusion judéo-chrétienne qui s'installe en diaspora et qui risque d'être un jour très grave par rapport à Israël. Je vous dirai pourquoi tout de suite. Il n'y a pas de doute que l'Église, les Églises d'ailleurs, passent une grande crise de conscience. Et je crois que nous avons, d'une certaine manière, le devoir de les aider, mais est-ce qu'ils sont aidables, je ne sais pas, à travers la Shoah et l'État d'Israël, de découvrir dans deux expériences, une négative et une positive, que peut-être c'est les Juifs qui sont Israël et pas l'Église. Vous comprenez l'envergure du problème. Okay. Pendant ce temps, les Juifs de diaspora ont aussi une crise d'identité. Ça veut dire, si Israël, c'est les Israéliens, alors les Juifs, qu'est-ce que c'est? Et quand je dis les Juifs, je veux dire les Juifs de diaspora. Okay. Et voilà que tout se passe comme si ces deux ensembles, la diaspora juive et l'Église, mettent ensemble leurs problèmes face à Israël. Et ça s'appelle l'amitié juive de chrétien. Vous avez compris la gravité du problème. Okay. Je crois que ça vaut la peine d'y réfléchir, et peut-être que vous aurez des études là-dessus, je ne sais pas. C'est de lui que je voulais parler. Et alors, je ne veux pas citer de nom, mais puisque tu l'as fait, comme dit l'ordre, c'est toi qui l'as dit. Et alors, un de mes derniers voyages en... Ah, peut-être que je vous en ai parlé. En France, j'ai appris, comme vous savez peut-être, qu'il y a une émission commune entre un rabbin, enfin, défroqué, mais rabbin quand même, et un prêtre pas encore défroqué, et qui est le révérend Père Dupuis, qui est d'ailleurs un sincère ami du peuple juif et d'Israël, dans la mesure où la sincérité peut être mesurée. Okay. Alors, il se passe cette chose inouïe, que un rabbin, tous les dimanches matin, heureusement que c'est pas le Shabbat, hein, encore, tous les dimanches matin, bon, c'est le catéchisme, tous les dimanches matin, il y a un rabbin, un prêtre, qui enseigne sur un texte hébreu la Torah aux Juifs et aux Goïm de France. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, encore plus énorme, c'est que la plupart du temps, c'est le prêtre qui reprend le rabbin en lui disant « Mais monsieur le rabbin, ici, vous avez mal lu en hébreu. » Et ça arrive en plus. Alors, on sait bien qu'il y aurait une contre-attaque, mais on va laisser les choses comme ça. Mais c'est simplement un indice qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cette espèce de perplexité commune vis-à-vis d'Israël, Israël israélien. Il n'y a pas d'autre explication au fond. Et c'est très grave, d'autant plus que ces rabbins, en général, viennent prendre leur retraite ici. Mais en attendant, ils ont fait des cadavres. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez où ils prennent la retraite? Dans les villes de Delorme. Herzliya Pitouach. Vous voyez où c'est? Bon, en tout cas, je reviens au Rechavia. Il a mis ça à Karatila, Karatila, à la Niba de Merchavia. Alors, je reviens au problème. Alors, nous allons avoir un exemple. Voici comment, en général, la théologie chrétienne s'approche de cette contradiction que je vous rappelais. Que d'une part, Noir a trouvé grâce, on relit le texte, c'est très clair. Ve Noir matzachen be'ene Hashem. Et Noir a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et d'autre part, le verset dit, qui est ce Noir? Il est Ish Tzadik. Alors la réponse à la théologie chrétienne est très simple. Qu'est-ce que c'est être injuste? C'est avoir trouvé grâce. De qui on dit qu'il s'agit d'un juste? C'est celui qui a la grâce. Alors nous allons étudier en quoi ceci est complètement irrecevable. Et nous allons voir comment Rashi intervient, et très probablement, si on ne peut pas avoir de certitude sur des textes, sur des documents écrits, avait en tête cette controverse avec la théologie chrétienne. Vous savez que Rashi a vécu en plein contexte chrétien, et ne croyez pas qu'il vivait dans un ghetto à cette époque, et plein de familles des juifs, en particulier l'école Rashi des Trois en Champagne, comme vous savez, était non seulement reçue dans les cercles cultivés intellectuels de la France chrétienne de son temps, mais étaient considérés comme des maîtres. Alors, vous savez, certains élèves de Rashi ont été anoblis. Quand vous étudierez Tosfot, vous verrez par exemple le sire de Chinon en scène. Okay. Et c'est pas loin de Rabbi Asterix. Et puis, énormément de grands exégètes sont chrétiens, citent Rashi, de contemporains de Rashi, le citent et utilisent son enseignement. Ça recommence avec le Père Dupuis. Bien. Mais seulement c'était tellement dangereux que Rashi, en général, camoufle ses préoccupations à chaque fois qu'il fait allusion officielle. Vous remarquerez dans vos études, c'est quelque chose de très impressionnant. En tout cas, dans le monde ashkénaz, ça ne fait pas d'exception. Dans aucun texte de la tradition juive de 2000 ans, il n'y a aucune allusion officielle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Étant donné le tabou, l'atmosphère de terreur et de persécution et de ghetto, Mordechai, vous avez commencé à étudier pour lui, Mordechai courbé avant qu'il se redresse. Vous savez que le juif de cour est en même temps le juif de ghetto. Mais un jour, Mordechai je vais dire une blague de pourri. Vous savez pourquoi il ne voulait pas se courber devant Aman? Parce qu'il en avait marre d'hocher la tête. Puisqu'on s'approche de pourri. Bien, alors je peux revenir aux autres. Eh bien, je crois que c'est ça la grande différence. Nous vivons dans un temps où les juifs courbés se redressent. Bien. Mais il faut bien savoir pendant 2000 ans, et demain je n'ai pas ce texte ici, mais est-ce que certains nous trouvent encore dans la bibliothèque française l'Émile de Rousseau? Ça vous dit quelque chose, quoi? Bon, si vous avez ce livre-là, quelqu'un peut-être cherchera le référent, je veux dire, ça doit être dans le quatrième livre de l'Émile, lorsque Rousseau parle de la controverse entre les théologiens chrétiens et les théologiens juifs, et il dit tout ça c'est des bulles rusées, je crois que c'est même le terme qu'il emploie, ou il emploie un terme encore plus fort, parce que les chrétiens disent que c'est eux qui ont raison vis-à-vis des théologiens chrétiens, et Rousseau dit en toutes lettres, il dit, on attendra que les juifs aient un état, leurs écoles et leurs universités, pour savoir ce qu'ils ont à dire. Jusque-là, il ne va pas ouvrir la bouche. Tout ce qu'ils disent, c'est le juif courbé. Vous avez compris ? Mais je vous apporterai ce texte. C'est frappant de voir comment Rousseau a vu ça de façon aussi aiguë. Alors ce temps-là a commencé. Nous avons un état, nos écoles, nos universités, et même le Mahomet, que vous pouvez. Et alors, pendant ce temps, il y a des émissions, comme je vous en ai parlé. Donc, voilà donc la thèse chrétienne, vous voulez, on va y réfléchir du point de vue de l'exégèse. Benoach, Matzachen, Bene Hachem, et Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. De qui s'agit-il? Voici les engendrements de Noach. Noach, un homme juste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un juste? C'est celui qui est là, c'est celui qui a la grâce. Ok? Nous allons lire Rachid. Et nous verrons que Rachid va intervenir pour un problème dont on peut rendre compte de point de vue de l'exégèse pure en dehors de ce problème de théologie, mais que nous allons rattacher à notre question. Alors, qu'est-ce qu'il veut lire Rachid? C'est pas une interrogation, interrogatoire, c'est pour que j'ai le temps de laisser reposer ma voix et puis que vous preniez l'habitude de lire. Alors, Rachid. Qui peut lire Rachid? Oui, qu'est-ce qu'il veut? N'importe qui, essayez. On vous aide. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas dans la salle quelqu'un qui sait lire Rachid. Allez, je vais lire. Enfin, je vais essayer. Alors, puisque il nous le fait mentionner, c'est-à-dire, puisque le texte nous fait mentionner le nom de Noach, Siper Bishbacho, il nous raconte sa louange. Et quelle est la raison de Rachid? Puisqu'on a parlé de Noach, on nous dit sa louange qu'il est tzadique. Avant de voir la justification que Rachid donne pour son raisonnement par le verset qui cite, c'est très clair que Rachid veut nous empêcher de penser qu'on indique que Noach était tzadique pour nous expliquer pourquoi il a trouvé grâce. Parce que trouver grâce, c'est trouver grâce, et être tzadique, c'est avoir du mérite. Qui aurait pu penser que la Torah nous a dit qu'il est tzadique pour expliquer pourquoi il a trouvé grâce? Et vous voyez que nous sommes déjà dans une perspective inverse de celle de la théologie chrétienne, je vous ai dit. Mais pourquoi Noach a trouvé grâce? C'est parce qu'il avait le mérite d'être tzadique. Alors, Rachid va nous bloquer cette lecture, parce que trouver grâce, et être tzadique, c'est être tzadique. C'est pas parce qu'il était tzadique qu'il a trouvé grâce. Il a trouvé grâce parce qu'il a trouvé grâce. Parce que Dieu a décidé. C'est vraiment gratuit. Et alors, pourquoi tu nous dis qu'il est tzadique? Alors, Rachid nous dit, nous avons un principe. Quand on cite un tzadique, on dit qu'il est tzadique. Oil veiskiro, siper bishpo, bishbacho. Sheneemar, zecher tzadik levracha. D'après un verset de Michelet, le livre des Proverbes, qui dit Zecher tzadik levracha. Le souvenir, la mention de mentionner, et donc faire ce souvenir, se remémorer, un tzadik doit être en vue d'une bénédiction. Alors, lorsqu'on cite un tzadik, on dit sa bénédiction. C'est clair? Je reprends le raisonnement de Rachid. Le Rachid n'est pas difficile. Ne crois pas que c'est pour vous expliquer, là je m'inspire du Gourari et du Maharal. Ne crois pas que c'est pour nous dire pourquoi il a trouvé grâce que la Torah dit qu'il est tzadik. Parce que trouver grâce, il a trouvé grâce. Mais puisqu'il est tzadik, on a un principe qui consiste, lorsqu'on cite un tzadik, de dire sa louange, de dire qu'il est tzadik. Deux remarques. Premièrement, en général, on a pris l'habitude de, lorsqu'on cite un tzadik qui est mort, on dit Zichrono Livrach, Zal. Vous savez, c'est un grand tzadik, on dit Zatzal. Zecher Tzadik Livrach. un kadosh, on dit Zecher Tzadik le kadosh. Mais chez les Ashkenazim, vous avez un prénom qui vient de là. Beaucoup d'Ashkenazim ont le prénom Zalman. Okay? Zalman, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est né alors que son père était déjà décédé. Alors on lui donne le nom de Zal, ça veut dire son père. Okay? Vous connaissez ça, vous? Et en tout cas, vous pouvez, c'est du folklore sparate. Alors, en tout cas, pour revenir à notre problème, nous allons très clairement que Rashi veut nous évacuer une lecture erronée qui consisterait à dire, ben voilà, nous avons l'explication de la raison pour laquelle Noach a trouvé grâce. Alors c'est là que je vais vous citer ce vers du Talmud dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un enseignement de Rabbi Ishmael. Alors ça se trouve, si vous voulez la référence, dans la Gemara de Sanhedrin, page 108a. Tana de Rabbi Ishmael. On a enseigné à l'école de Rabbi Ishmael. Af al Noach retam zardin. Même contre Noach avait été décrété cette décision du déluge. Et là, chez Matzachem, mais il a trouvé grâce. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Nihamti ka asitim, j'ai regretté de les avoir faits tous. C'est moi qui ajoute. Et juste après, Venoach Matzachem vene Hachem, mais Noach, c'est moi qui dis, mais, a trouvé grâce. Tous étaient condamnés, Noach y compris, mais il a trouvé grâce. Pour renforcer le fait que Noach n'avait pas de mérite suffisant qui justifierait le fait qu'il est sauvé, c'est vraiment un salut par grâce. Il y a des Midrashim qui disent ceci, je vais le citer, je crois, mais il y a un autre. On reprend le verset. Venoach Matzachem vene Hachem. Et Noach a trouvé grâce dans les yeux de Dieu. Vene Hachem. Et le Midrash dit, Abal ben et Noach, mais dans les yeux de Noach, Akadosh Baruch Hu le Matzaklum, Dieu n'a rien trouvé, a filou d'Ima, même pas une lame. Je répète même pas, ça va le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vraiment Noach était tzadik au niveau du mérite d'être sauvé, alors il aurait été sauveur. Mais voilà que Dieu lui annonce que l'humanité entière va être détruite, effacée, et ne pleure même pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tzadik? Il est tzadik, vous avez compris. Et vous voyez tout de suite comment ça va être comparé avec Abraham à propos de Sodome et Gomorre. Lorsque Dieu va dire à Abraham, eh bien, le jugement de Sodome et Gomorre, c'est fini, déluge de feu, Abraham a commencé à discuter. Et on arrivera à cette discussion d'Abraham qui est très importante pour la leçon que ça nous transmet. Dieu fait comprendre à Abraham que les gens de Sodome et de Gomorre ne mérite pas cette intercession. Mais on voit en tout cas qu'Abraham ne peut pas laisser rester impassible devant cette annonce. Une humanité même de pécheurs va être perdue et tu ne pleures pas, tu es noir. Alors j'ouvre ici une parenthèse. Il est possible que Noir ait pleuré, que Noir ait prié, mais pas au niveau où la Torah l'aurait dit. Parce que c'est impossible de supposer qu'un tzaddik, même un niveau, genre le profil de tzaddik et ben Noir, et je reviendrai sur la définition, mais étudier avec le tzadikim précédent des sursis. Vous vous rappelez Hanor, préférait être du côté de Dieu dans un couvent plutôt qu'avec les hommes parce qu'il avait peur de devenir comme eux. Vous rappelez, c'est un tzadik qui ne fait pas de mal, mais ce qui fait du bien. Quoi qu'il en soit, tzadik il est tzadik, même dans ce profil de puritain, vous savez, il y a des tzadikim comme ça, qui ne ferait pas de mal à une mouche, il ne ferait pas du bien non plus. Mais malgré tout, un tzaddik de cette identité, c'est un tzaddik. Et il entend une chose pareille. Une humanité entière va être détruite et il pleure pas, nous dit le Midrash. Donc sûrement il a pleuré. Mais pas au niveau où la Torah l'aurait dit. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, la Torah va nous dire pour la première fois qu'un homme a prié, c'est Abraham. Je veux dire, la première fois que la Torah le dit, c'est à propos d'Abraham. Est-ce que ça veut dire que depuis le premier rang, personne n'a prié? Bien sûr qu'ils ont prié. Mais ce n'est pas une prière qui fonde le fait de la prière de façon irréversible dans l'histoire de l'humanité. Ça commence avec Abraham. Ce n'est pas une prière au niveau où la Torah y fait allusion. Vous avez compris? Dans un moment, nous verrons la première fois que la Torah va nous dire qu'un homme a aimé sa femme. Bien sûr, depuis le début de l'humanité, il a dû avoir des hommes qui aimaient leur femme. Mais pas au niveau où la Torah a jugé que c'était un vrai amour. Alors on l'a dit qu'à propos de. Ça commence avec Isaac et surtout avec Jacob. Bien. Alors, voilà donc la première analyse que je vous réduis à temps. Nous avons eu deux points sur ce sujet. premièrement, une lecture que le judaïsme a rejetée catégoriquement. Qu'est-ce que c'est qu'un juste? C'est celui qui a la grâce.